Le Capital, livre premier, première section, chapitre grand 2, des échanges. Les marchandises ne peuvent point aller elles-mêmes au marché, ni s'échanger elles-mêmes entre elles. Il nous faut donc tourner nos regards vers leurs gardiens et conducteurs, c'est-à-dire vers leurs possesseurs. Les marchandises sont des choses et, conséquemment, n'opposent à l'homme aucune résistance. Si elle manque de bonne volonté, il peut employer la force, en d'autres termes, s'en emparer. Note de bas de page. Dans le XIIe siècle, si renommé pour sa piété, on trouve souvent parmi les marchandises des choses très délicates. Un poète français de cette époque signale, par exemple, parmi les marchandises qui se voyaient sur le marché du lundi, à côté des étoffes, des chaussures, des cuirs et des instruments d'agriculture, ouvrez les guillemets, des femmes folles de leur corps, fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Donc, les marchandises sont des choses et, conséquemment, n'opposent à l'homme aucune résistance. Si elle manque de bonne volonté, il peut employer la force, en d'autres termes, s'en emparer. Pour mettre ces choses en rapport les unes avec les autres, à titre de marchandises, leurs gardiens doivent eux-mêmes se mettre en rapport entre eux, à titre de personnes dont la volonté habite dans ces choses mêmes, de telle sorte que la volonté de l'un est aussi la volonté de l'autre, et que chacun s'approprie la marchandise étrangère en abandonnant la sienne au moyen d'un acte volontaire commun. Ils doivent donc se reconnaître réciproquement comme propriétaires privés. Ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, légalement développé ou non, n'est que le rapport des volontés dans lequel se reflète le rapport économique. Son contenu est donné par le rapport économique lui-même. Note de bas de page. Bien des gens puisent leur idéal de justice dans les rapports juridiques qui ont leur origine dans la société basée sur la production marchande. Ce qui, soit dit en passant, leur fournit agréablement la preuve que ce genre de production durera aussi longtemps que la justice elle-même. Ensuite, dans cet idéal, tiré de la société actuelle, ils prennent leur point d'appui pour réformer cette société et son droit. Que penserait-on d'un chimiste qui, au lieu d'étudier les lois des combinaisons matérielles et de résoudre sur cette base des problèmes déterminés, voudrait transformer ces combinaisons d'après les, ouvrez les guillemets, idées éternelles de la finité et de la naturalité, fermez les guillemets. Sait-on quelque chose de plus sur l'usure, entre guillemets, par exemple, quand on dit qu'elle est en contradiction avec la justice éternelle, entre guillemets, et l'équité éternelle, entre guillemets, que n'en savaient les pères de l'Église quand ils en disaient autant en proclamant sa contradiction avec la, ouvrez les guillemets, grâce éternelle, la foi éternelle et la volonté éternelle de Dieu, fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, légalement développé ou non, n'est que le rapport des volontés dans lequel se reflète le rapport économique. Son contenu est donné par le rapport économique lui-même. Les personnes n'ont à faire ici les unes aux autres qu'autant qu'elles mettent certaines choses en rapport entre elles comme marchandises. Elles n'existent les unes pour les autres qu'à titre de représentants de la marchandise qu'elles possèdent. Nous verrons d'ailleurs, dans le cours du développement, que les masques divers dont elles s'affublent, suivant les circonstances, ne sont que les personnifications des rapports économiques qu'elles maintiennent les unes vis-à-vis des autres. Ce qui distingue surtout l'échangiste de sa marchandise, c'est que, pour celle-ci, toute autre marchandise n'est qu'une forme d'apparition de sa propre valeur. Naturellement débauchée et cynique, elle est toujours sur le point d'échanger son âme, et même son corps, avec n'importe quelle autre marchandise. Cette dernière fut-elle aussi dépourvue d'attrait que Marie Thorne. Ce sens qui lui manque, pour apprécier le côté concret de ses sœurs, l'échangiste le compense et le développe par ses propres sens à lui, au nombre de 5 et plus. Pour lui, la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate. S'il en était autrement, il ne l'amènerait pas au marché. La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est qu'elle est porte-valeur utile à d'autres et, par conséquent, un instrument d'échange. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Car l'usage de chaque chose est de deux sortes. L'une est propre à la chose comme telle, l'autre non. Une sandale, par exemple, sert de chaussure et de moyen d'échange. Sous ces deux points de vue, la sandale est une valeur d'usage, car celui qui l'échange pour ce qui lui manque, la nourriture, je suppose, se sert aussi de la sandale comme sandale, mais non dans son genre d'usage naturel, car elle n'est pas là, précisément, pour l'échange. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Aristote, De Rep, livre 1, chapitre grand 9, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, pour l'échangiste, la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate. S'il en était autrement, il ne la mènerait pas au marché. La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est qu'elle est porte-valeur utile à d'autres, et par conséquent, un instrument d'échange. Il veut donc l'aliéner pour d'autres marchandises, dont la valeur d'usage puisse le satisfaire. Toutes les marchandises sont des non-valeurs d'usage pour ceux qui les possèdent, et des valeurs d'usage pour ceux qui ne les possèdent pas. Aussi, faut-il qu'elles passent d'une main dans l'autre, sur toute la ligne. Mais ce changement de main constitue leur échange, et leur échange les rapporte les unes aux autres comme valeurs et les réalise comme valeurs. Il faut donc que les marchandises se manifestent comme valeurs avant qu'elles puissent se réaliser comme valeurs d'usage. D'un autre côté, il faut que leur valeur d'usage soit constatée avant qu'elles puissent se réaliser comme valeurs. Car le travail humain dépensé dans leur production ne compte qu'autant qu'il est dépensé sous une forme utile à d'autres. Or, leur échange seul peut démontrer si ce travail est utile à d'autres, c'est-à-dire si son produit peut satisfaire des besoins étrangers. Chaque possesseur de marchandises ne veut l'aliéner que contre une autre dont la valeur utile satisfait son besoin. En ce sens, l'échange n'est pour lui qu'une affaire individuelle. En outre, il veut réaliser sa marchandise comme valeur dans n'importe quelle marchandise de même valeur qui lui plaise, sans s'inquiéter si sa propre marchandise a pour le possesseur de l'autre une valeur utile ou non. Dans ce sens, l'échange est pour lui un acte social général. Mais le même acte ne peut être simultanément pour tous les échangistes de marchandises simplement individuels et, en même temps, simplement social et général. Considérons la chose de plus près. Pour chaque possesseur de marchandises, toute marchandise étrangère est un équivalent particulier de la sienne. Sa marchandise est, par conséquent, l'équivalent général de toutes les autres. Mais, comme tous les échangistes se trouvent dans le même cas, aucune marchandise n'est équivalent général, et la valeur relative des marchandises ne possède aucune forme générale sous laquelle elles puissent être comparées comme quantité de valeur. En un mot, elles ne jouent pas les unes vis-à-vis des autres le rôle de marchandise, mais celui de simple produit ou de valeur d'usage. Dans leur embarras, nos échangistes pensent comme Faust. Au commencement était l'action. Aussi ont-ils déjà agi avant d'avoir pensé. Et leur instinct naturel ne fait que confirmer les lois provenant de la nature des marchandises. Ils ne peuvent comparer leurs articles comme valeur, et par conséquent comme marchandise, qu'en les comparant à une autre marchandise quelconque qui se pose devant eux comme équivalent général. C'est ce que l'analyse précédente a déjà démontré. Mais cet équivalent général ne peut être le résultat que d'une action sociale. Une marchandise spéciale est donc mise à part par un acte commun des autres marchandises et sert à exposer leurs valeurs réciproques. La forme naturelle de cette marchandise devient ainsi la forme équivalent socialement valide. Le rôle d'équivalent général est désormais la fonction sociale spécifique de la marchandise exclue et elle devient argent. Citation. Illi unum concilium habent, et virtutem, et potestatem suam bestiae tradunt. Et nequi possit emere, aut vendere, nisi qui habet caracterem, aut nomem bestiae, aut numerum nominis eius. Fin de citation. Ouvrez la parenthèse. Apocalypse, fermez la parenthèse. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Ils ont tous un même dessein, et ils donneront à la bête leur force et leur puissance. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Apocalypse, grand 17, 13, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Apocalypse, grand 13, 17, Trad, le maître de Sassi. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, le rôle d'équivalent général est désormais la fonction sociale spécifique de la marchandise exclue et elle devient argent. L'argent est un cristal qui se forme spontanément dans les échanges par lesquels les divers produits du travail sont en fait égalisés entre eux et, par cela même, transformés en marchandises. Le développement historique de l'échange imprime de plus en plus aux produits du travail le caractère de marchandise et développe en même temps l'opposition que recèle leur nature, celle de valeur d'usage et de valeur. Le besoin même du commerce force à donner un corps à cette antithèse, tend à faire naître une forme valeur palpable et ne laisse plus ni repos ni trêve jusqu'à ce que cette forme soit enfin atteinte par le dédoublement de la marchandise en marchandise et en argent. À mesure donc que s'accomplit la transformation générale des produits du travail en marchandise, s'accomplit aussi la transformation de la marchandise en argent. Note de bas de page. On peut, d'après cela, apprécier le socialisme bourgeois qui veut éterniser la production marchande et, en même temps, abolir, ouvrez les guillemets, l'opposition de marchandises et argent, fermez les guillemets, c'est-à-dire l'argent lui-même, car il n'existe que dans cette opposition. Voir sur ce sujet Tour critique, page 61. Fin de la note de bas de page. Donc, à mesure donc que s'accomplit la transformation générale des produits du travail en marchandises, s'accomplit aussi la transformation de la marchandise en argent. Dans l'échange immédiat des produits, l'expression de la valeur revêt d'un côté la forme relative simple et de l'autre ne la revêt pas encore. Cette forme était X marchandise grand A égale Y marchandise grand B. La forme de l'échange immédiat est X objet d'utilité grand A égale Y objet d'utilité grand B. Note de bas de page. Tant que deux objets utiles différents ne sont pas encore échangés, mais qu'une masse chaotique de choses est offerte comme équivalent pour une troisième, ainsi que nous le voyons chez les sauvages, l'échange immédiat des produits n'est lui-même qu'à son berceau. Fin de la note de bas de page. Donc, dans l'échange immédiat des produits, l'expression de la valeur revêt d'un côté la forme relative simple et de l'autre ne la revêt pas encore. Cette forme était X marchandise grand A égale Y marchandise grand B. La forme de l'échange immédiat est X objet d'utilité grand A égale Y objet d'utilité grand B. Les objets grand A et grand B ne sont point ici des marchandises avant l'échange, mais le deviennent seulement par l'échange même. Dès le moment qu'un objet utile dépasse, par son abondance, les besoins de son producteur, il cesse d'être valeur d'usage pour lui, et, les circonstances données, sera utilisé comme valeur d'échange. Les choses sont par elles-mêmes extérieures à l'homme, et par conséquent aliénables. Pour que l'aliénation soit réciproque, il faut tout simplement que des hommes se rapportent les uns aux autres par une reconnaissance tacite, comme propriétaires privés de ces choses aliénables, et, par là même, comme personnes indépendantes. Cependant, un tel rapport d'indépendance réciproque n'existe pas encore pour les membres d'une communauté primitive, quelle que soit sa forme, famille patriarcale, communauté indienne, état inca comme au Pérou, etc. L'échange des marchandises commence là où les communautés finissent, à leur point de contact avec des communautés étrangères ou avec des membres de ces dernières communautés. Dès que les choses sont une fois devenues des marchandises dans la vie commune avec l'étranger, elles le deviennent également par contre-coup dans la vie commune intérieure. La proportion dans laquelle elles s'échangent est d'abord purement accidentelle. Elles deviennent échangeables par l'acte volontaire de leurs possesseurs qui se décident à les aliéner réciproquement. Peu à peu, le besoin d'objets utiles provenant de l'étranger se fait sentir davantage et se consolide. La répétition constante de l'échange en fait une affaire sociale régulière et, avec le cours du temps, une partie au moins des objets utiles est produite, intentionnellement, en vue de l'échange. À partir de cet instant, s'opère d'une manière nette la séparation entre l'utilité des choses pour les besoins immédiats et leur utilité pour l'échange à effectuer entre elles, c'est-à-dire entre leur valeur d'usage et leur valeur d'échange. D'un autre côté, la proportion dans laquelle elles s'échangent commence à se régler par leur production même. L'habitude les fixe comme quantité de valeur. Dans l'échange immédiat des produits, chaque marchandise est moyen d'échange immédiat pour celui qui la possède, mais pour celui qui ne la possède pas, elle ne devient équivalent que dans le cas où elle est pour lui une valeur d'usage. L'article d'échange n'acquiert donc encore aucune forme valeur indépendante de sa propre valeur d'usage ou du besoin individuel des échangistes. La nécessité de cette forme se développe à mesure qu'augmente le nombre et la variété des marchandises qui entrent peu à peu dans l'échange. Et le problème éclot simultanément avec les moyens de le résoudre. Des possesseurs de marchandises n'échangent et ne comparent jamais leurs propres articles avec d'autres articles différents, sans que diverses marchandises soient échangées et comparées comme valeur par leurs maîtres divers, avec une seule et même troisième espèce de marchandise. Une telle troisième marchandise, en devenant équivalent pour diverses autres, acquiert immédiatement, quoique dans d'étroites limites, la forme équivalent générale ou sociale. Cette forme générale naît et disparaît avec le contact social passager qui l'a appelé à la vie et s'attache rapidement et tour à tour, tantôt à une marchandise, tantôt à l'autre. Dès que l'échange a atteint un certain développement, elle s'attache exclusivement à une espèce particulière de marchandise ou se cristallise sous forme argent. Le hasard décide d'abord sur quel genre de marchandise elle reste fixée. On peut dire cependant que cela dépend en général de deux circonstances décisives. La forme argent adhère ou bien aux articles d'importation les plus importants, qui révèlent en fait les premiers la valeur d'échange des produits indigènes, ou bien aux objets, ou plutôt à l'objet utile, qui forme l'élément principal de la richesse indigène aliénable, comme le bétail, par exemple. Les peuples nomades développent les premiers la forme argent parce que tout leur bien et tout leur avoir se trouvent sous forme mobilière et par conséquent immédiatement aliénable. De plus, leur genre de vie les met constamment en contact avec des sociétés étrangères et les sollicite par cela même à l'échange des produits. Les hommes ont souvent fait de l'homme même, dans la figure de l'esclave, la matière primitive de leur argent. Il n'en a jamais été ainsi du sol. Une telle idée ne pouvait naître que dans une société bourgeoise déjà développée. Elle date du dernier tiers du XVIIe siècle, et sa réalisation n'a été essayée sur une grande échelle par toute une nation, qu'un siècle plus tard, dans la Révolution de 1789, en France. À mesure que l'échange brise ses liens purement locaux et que par suite, la valeur des marchandises représente de plus en plus le travail humain en général, la forme argent passe à des marchandises que leur nature rend aptes à remplir la fonction sociale d'équivalent général, c'est-à-dire aux métaux précieux. Que maintenant, bien que, ouvrez les guillemets, par nature, l'or et l'argent ne soient pas monnaie, mais que, entre crochets, la monnaie soit, par nature, or et argent, fermez les guillemets, note de bas de page. Karl Marx, Zur Kritik, page 121, ouvrez les guillemets. Les métaux précieux, trois petits points, sont naturellement monnaie, fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, Galliani, Della Moneta, dans le recueil de Castedi, Parte Moderna, tome grand 3, page 137, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, que maintenant, bien que, ouvrez les guillemets, par nature, l'or et l'argent ne soient pas monnaie, mais que la monnaie soit, par nature, or et argent, fermez les guillemets, c'est ce que montre l'accord et l'analogie qui existent entre les propriétés naturelles de ces métaux et les fonctions de la monnaie. Note de bas de page. Voir de plus amples détails à ce sujet dans mon ouvrage déjà cité, chapitre, ouvrez les guillemets, les métaux précieux, fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Donc, que maintenant, bien que, par nature, l'or et l'argent ne soient pas monnaie, mais que la monnaie soit, par nature, or et argent, fermez les guillemets, c'est ce que montre l'accord et l'analogie qui existent entre les propriétés naturelles de ces métaux et les fonctions de la monnaie. Mais jusqu'ici, nous ne connaissons qu'une fonction de la monnaie, celle de servir comme forme de manifestation de la valeur des marchandises, ou comme matière dans laquelle les quantités de valeur des marchandises s'expriment socialement. Or, il n'y a qu'une seule matière qui puisse être une forme propre à manifester la valeur ou servir d'image concrète du travail humain abstrait et conséquemment égal. C'est celle dont tous les exemplaires possèdent la même qualité uniforme. D'un autre côté, comme des valeurs ne diffèrent que par leur quantité, la marchandise monnaie doit être susceptible de différences purement quantitatives. Elle doit être divisible à volonté et pouvoir être recomposée avec la somme de toutes ses parties. Chacun sait que l'or et l'argent possèdent naturellement toutes ses propriétés. La valeur d'usage de la marchandise monnaie devient double. Outre sa valeur d'usage particulière comme marchandise, ainsi l'or par exemple sert de matière première pour articles de luxe, pour boucher les dents creuses, etc., elle acquiert une valeur d'usage formelle qui a pour origine sa fonction sociale spécifique. Comme toutes les marchandises ne sont que des équivalents particuliers de l'argent, et que ce dernier est leur équivalent général, ils jouent vis-à-vis d'elles le rôle de marchandise universelle, et elles ne représentent vis-à-vis de lui que des marchandises particulières. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent est la marchandise universelle. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, verri. Meditazioni sulla economia politica. Page 16, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, comme toutes les marchandises ne sont que des équivalents particuliers de l'argent, et que ce dernier est leur équivalent général, ils jouent vis-à-vis d'elle le rôle de marchandise universelle, et elle ne représente vis-à-vis de lui que des marchandises particulières. On a vu que la forme argent ou monnaie n'est que le reflet des rapports de valeur de toutes sortes de marchandises dans une seule espèce de marchandise. Que l'argent lui-même soit marchandise, cela ne peut donc être une découverte que pour celui qui prend pour point de départ sa forme tout achevée, pour en arriver à son analyse ensuite. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent et l'or eux-mêmes, auxquels nous pouvons donner le nom général de lingot, sont, trois petits points, des marchandises, trois petits points, dont la valeur, trois petits points, hausse et baisse. Le lingot a une plus grande valeur, là où, avec un moindre poids, on achète une plus grande quantité de produits ou de marchandises du pays. Fermez les guillemets. ouvrez la parenthèse, London, 1695, page 7, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. L'argent et l'or, monnayés ou non, quoiqu'ils servent de mesure à toutes les autres choses, sont des marchandises, tout aussi bien que le vin, l'huile, le tabac, le drap et les étoffes. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. A discourse concerning trade, and that in particular of the East Indies, etc. London, 1689, page 2, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les fonds et les richesses du royaume ne peuvent pas consister exclusivement en monnaie, et l'or et l'argent ne doivent pas être exclus du nombre des marchandises. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. The East India Trade, a most profitable trade. London, 1677, page 4, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, que l'argent lui-même soit marchandise, cela ne peut donc être une découverte que pour celui qui prend pour point de départ sa forme tout achevée pour en arriver à son analyse ensuite. Le mouvement des échanges donne à la marchandise qu'il transforme en argent non pas sa valeur, mais sa forme-valeur spécifique. Confondant deux choses aussi disparates, on a été amené à considérer l'argent et l'or comme des valeurs purement imaginaires. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'or et l'argent ont leur valeur comme métaux, avant qu'ils deviennent monnaie. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Galliani, Locke cite, page 72, fermez la parenthèse. Locke dit, ouvrez les guillemets. Le commun consentement des hommes assigna une valeur imaginaire à l'argent, à cause de ses qualités qui le rendaient propre à la monnaie. Fermez les guillemets. L'eau, au contraire, ouvrez les guillemets. Je ne saurais concevoir comment différentes nations pourraient donner une valeur imaginaire à aucune chose, trois petits points. Ou comment cette valeur imaginaire pourrait avoir été maintenue, fermez les guillemets. Mais il n'entendait rien lui-même à cette question, car ailleurs, il s'exprime ainsi, ouvrez les guillemets. L'argent s'échangeait sur le pied de ce qu'il était évalué pour les usages, fermez les guillemets, c'est-à-dire d'après sa valeur réelle, ouvrez les guillemets. Il reçut une valeur additionnelle, trois petits points, de son usage, comme monnaie, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Jean Law, Considération sur le numéraire et le commerce, édition d'Air, ouvrez les guillemets, économiste financier du XVIIIe siècle, fermez les guillemets, page 469-470, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, confondant deux choses aussi disparates, on a été amené à considérer l'argent et l'or comme des valeurs purement imaginaires. Le fait que l'argent, dans certaines de ses fonctions, peut être remplacé par de simples signes de lui-même, a fait naître cette autre erreur qu'il n'est qu'un simple signe. D'un autre côté, il est vrai, cette erreur faisait pressentir que, sous l'apparence d'un objet extérieur, la monnaie déguise en réalité un rapport social. Dans ce sens, toute marchandise serait un signe, parce qu'elle n'est valeur que comme enveloppe matérielle du travail humain dépensé dans sa production. Note de bas de page. Ouvrez le guillemet. L'argent en des denrées, entre crochets, est le signe. Fermez le guillemet. Ouvrez la parenthèse. V de Forbonnet. Élément du commerce. Nouvelle édition. Leyde, 1766. Tome 2, page 143. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Comme signe, il est attiré par les denrées, fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Locke cite, page 155, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. L'argent est un signe d'une chose et la représente, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Montesquieu, esprit des lois, fermez la parenthèse. L'argent, ouvrez les guillemets, n'est pas simple signe, car il est lui-même richesse. Il ne représente pas les valeurs, il les équivaut, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, le trône, Locke cite, page 910, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Si on considère le concept de valeur, la chose elle-même n'est prise que comme un signe, et elle ne représente pas ce qu'elle est elle-même, mais ce qu'elle vaut. Fermez les guillemets. Hegel, philosophie du droit. Longtemps avant les économistes, les juristes avaient mis en vogue cette idée que l'argent n'est qu'un simple signe et que les métaux précieux n'ont qu'une valeur imaginaire. Valets et sycophantes du pouvoir royal, ils ont, pendant tout le Moyen-Âge, appuyé le droit des rois à la falsification des monnaies sur les traditions de l'Empire romain et sur le concept du rôle de l'argent tel qu'il se trouve dans les pandectes. Ouvrez les guillemets. Que aucun puisse ne doit faire doute, dit leur habile disciple Philippe de Valois dans un décret de 1346, 16 janvier entre parenthèses. Que à nous et à Nostre Majesté royale n'appartiennent seulement, trois petits points, le métier, le fait, la provision et toute l'ordonnance de monnaie et de faire monnayer telle monnaie et donner tel cours pour tel prix, comme il nous plaît et bon nous semble. Fermez les guillemets. C'était un dogme du droit romain que l'empereur décréta la valeur de l'argent. Il était défendu expressément de le traiter comme une marchandise. Pecunia sueto nulli emere fas erit, nam in usu publico constitutas oportet non esse mercem. Il ne peut être permis à personne d'acheter de l'argent, car, créé pour l'usage public, il ne peut être marchandise. On trouve d'excellents commentaires là-dessus dans G. F. Pagnini, Saggio sopra il giusto pregio delle cose, 1751, dans Custody, Parte moderna, tome 2, dans la seconde partie de son écrit notamment, Pagnini dirige sa polémique contre les juristes. Fin de la note de bas de page. Donc, d'un autre côté, il est vrai, cette erreur faisait pressentir que, sous l'apparence d'un objet extérieur, la monnaie déguise en réalité un rapport social. Dans ce sens, toute marchandise serait un signe parce qu'elle n'est valeur que comme enveloppe matérielle du travail humain dépensé dans sa production. Mais dès qu'on ne voit plus que de simples signes dans les caractères sociaux que revêtent les choses, ou dans les caractères matériels que revêtent les déterminations sociales du travail, sur la base d'un mode particulier de production, on leur prête le sens de fiction conventionnelle, sanctionné par le prétendu consentement universel des hommes. C'était là le mode d'explication en vogue au XVIIIe siècle. Ne pouvant encore déchiffrer ni l'origine ni le développement des formes énigmatiques des rapports sociaux, on s'en débarrassait en déclarant qu'elles étaient d'invention humaine et non pas tombées du ciel. Nous avons déjà fait la remarque que la forme équivalente d'une marchandise ne laisse rien savoir sur le montant de sa quantité de valeur. Si l'on sait que l'or est monnaie, c'est-à-dire échangeable contre toutes les marchandises, on ne sait point pour cela combien valent, par exemple, 10 livres d'or. Comme toute marchandise, l'argent ne peut exprimer sa propre quantité de valeur que relativement dans d'autres marchandises. Sa valeur propre est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production et s'exprime dans le quantum de toute autre marchandise qui a exigé un travail de même durée. Ouvrez les guillemets. Si un homme peut livrer à Londres une once d'argent extraite des mines du Pérou, dans le même temps qu'il lui faudrait pour produire un boisseau de grains, alors l'un est le prix naturel de l'autre. Maintenant, si un homme, par l'exploitation de mines plus nouvelles et plus riches, peut se procurer aussi facilement 2 onces d'argent qu'auparavant une seule, le grain sera aussi bon marché à 10 shillings le boisseau qu'il l'était auparavant à 5 shillings caeteris paribus. Toutes choses égales par ailleurs. Ouvrez la parenthèse. William Petty, A Treatise of Taxes and Contributions. London, 1667, page 31. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, comme toute marchandise, l'argent ne peut exprimer sa propre quantité de valeur que relativement dans d'autres marchandises. Sa valeur propre est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production et s'exprime dans le quantum de toute autre marchandise qui a exigé un travail de même durée. Cette fixation de sa quantité de valeur relative a lieu à la source même de sa production, dans son premier échange. Dès qu'il entre dans la circulation comme monnaie, sa valeur est donnée. Déjà, dans les dernières années du XVIIe siècle, on avait bien constaté que la monnaie est marchandise. L'analyse n'en était cependant qu'à ses premiers pas. La difficulté ne consiste pas à comprendre que la monnaie est marchandise, mais à savoir comment et pourquoi une marchandise devient monnaie. Note de bas de page. Maître Rocher, le professeur, nous apprend d'abord, ouvrez les guillemets, que les fausses définitions de l'argent peuvent se diviser en 2 groupes principaux. Il y a celle d'après lesquelles il est plus, et celles d'après lesquelles il est moins qu'une marchandise. Fermez les guillemets. Puis, il nous fournit un catalogue des écrits les plus bigarrés sur la nature de l'argent, ce qui ne jette pas la moindre lueur sur l'histoire réelle de la théorie. À la fin, arrive la morale. Ouvrez les guillemets. On ne peut nier, dit-il, que la plupart des derniers économistes ont accordé peu d'attention aux particularités qui distinguent l'argent des autres marchandises. Ouvrez les crochets. Il est donc plus ou moins qu'une marchandise. Fermez les crochets. En ce sens, la réaction mi-mercantiliste de Ganil, etc., n'est pas tout à fait sans fondement. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Wilhelm Rocher, Die Grundlagen der Nationalökonomie. 3e édition, 1858, page 207-210, fermez la parenthèse. Plus, moins, trop peu, en ce sens, pas tout à fait. Quelle clarté et quelle précision dans les idées et le langage. Et c'est un tel fatras d'éclectisme professoral que Maître Rocher baptise modestement du nom de, ouvrez les guillemets, méthode anatomico-physiologique, fermez les guillemets, de l'économie politique. On lui doit cependant une découverte, à savoir que l'argent est, ouvrez les guillemets, une marchandise agréable, fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, la difficulté ne consiste pas à comprendre que la monnaie est marchandise, mais à savoir comment et pourquoi une marchandise devient monnaie. Nous avons déjà vu que, dans l'expression de valeur la plus simple, x marchandise grand A égale y marchandise grand B. L'objet dans lequel la quantité de valeur d'un autre objet est représentée semble posséder sa forme équivalente, indépendamment de ce rapport, comme une propriété sociale qu'il tire de la nature. Nous avons poursuivi cette fausse apparence jusqu'au moment de sa consolidation. Cette consolidation est accomplie dès que la forme équivalente générale s'est attachée exclusivement à une marchandise particulière ou s'est cristallisée sous forme argent. Une marchandise ne paraît point devenir argent parce que les autres marchandises expriment en elles réciproquement leur valeur. Tout au contraire, ces dernières paraissent exprimer en elles leur valeur parce qu'elle est argent. Le mouvement qui a servi d'intermédiaire s'évanouit dans son propre résultat et ne laisse aucune trace. Les marchandises trouvent, sans paraître y avoir contribué en rien, leur propre valeur représentée et fixée dans le corps d'une marchandise qui existe à côté d'elle et en dehors d'elle. Ces simples choses, argent et or, telles qu'elles sortent des entrailles de la terre, figurent aussitôt comme incarnation immédiate de tout travail humain. De là, la magie de l'argent.